VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes le monde. Aujourd'hui, édition du mardi 29 novembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Sedoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, condamne les récents affrontements en République centrafricaine entre éléments ex-Séléka et il demande la fin immédiate de la violence.
Au Mali, au moins 2 morts et 1 blessé quand un véhicule des forces armées maliennes est tombé hier soir dans une embuscade à quelques kilomètres de Gao.
En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan va établir aujourd'hui un calendrier de passage de personnalités ivoiriennes au procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo.
En Afrique du Sud, le président Zuma contestait ouvertement au sein de son parti où 3 ministres ont réclamé sa démission.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump, mis au défi d'étayer ses récentes allégations de fraude massive lors du scrutin du 8 novembre, qu'il l'a vu pourtant triompher d'Hillary Clinton.
11 blessés hier sur un campus de l'Université d'Ohio, l'auteur de l'attaque, un Somalien d'origine, a été abattu.
Jovenel Moïse, déclaré vainqueur de la présidentielle haïtienne dès le premier tour, selon les résultats préliminaires annoncés lundi soir.
Et dernière minute, 6 survivants dans l'accident d'avion transportant une équipe de foot du Brésil. Pour le moment, aucun autre détail sur cette information. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné hier les récents affrontements entre membres de l'ex-rébellion Séléka en République centrafricaine et il a demandé aux groupes armés de mettre fin immédiatement à la violence. Ces affrontements entre des groupes armés issus de l'ex-Séléka à Bria, à 450 km au nord-est de Bangui, ont fait 85 morts et déplacé près de 11 000 personnes, selon l'ONU.
Toujours en Centrafrique, face à l'urgence humanitaire en RCA, l'ONU a appelé les pays donateurs hier à verser près de 400 millions de dollars pour couvrir les besoins en 2017. Claire Morin-Gibourg.
Virginie Bekwa, ministre centrafricaine des Affaires sociales et de la Réconciliation nationale, a fait le déplacement jusqu'à Genève. Avec Fabrizio Hochschild, le coordinateur de l'action humanitaire pour la Centrafrique, elle a plaidé pour que les pays donateurs rassemblent près de 400 millions de dollars afin de venir en aide à 1,6 million de Centrafricains l'an prochain. Lors d'une conférence de presse, M. Hochschild a insisté sur l'urgence humanitaire de la RCA, plombée par les conflits et des décennies de pauvreté chronique. Cette somme s'ajoutera aux 2,2 milliards de dollars promis par des donateurs internationaux au début du mois à Bruxelles, en soutien au programme quinquennal national de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique. Selon les données de l'ONU, la moitié de la population souffre d'insécurité alimentaire et 40% des enfants de moins de 3 ans sont sous-alimentés de façon chronique. Conséquence, un enfant sur 5 risque de mourir avant son 5e anniversaire.
En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan qui juge l'ex-première dame Simone Gbagbo va établir aujourd'hui un calendrier de passage de personnalités ivoiriennes. C'était depuis plusieurs semaines la pomme de discorde entre l'accusation et la défense. Nani Talani explique.
Madame Simone Gbagbo sera présente à l'audience aujourd'hui mardi, a déclaré le procureur général à l'IEO. Il ajoute que le président de la cour, Bouaki Kouadio, va proposer un nouveau calendrier permettant de citer des personnalités ivoiriennes. La défense exigeait la présence de Guillaume Soro, ancien chef de la rébellion et président de l'Assemblée nationale, Jeannot Kouadio Aoussou, ancien premier ministre, Charles Koffi Dibi, ancien ministre et bien d'autres personnalités. Cependant, rien ne prouve qu'elles feront le déplacement. Après une suspension de 2 semaines, le procès a pu reprendre hier grâce à la médiation de Maître Abeyao, bâtonnier de l'Ordre des avocats. Madame Gbagbo est jugée depuis le 31 mai pour crime contre l'humanité. Elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Au Mali, au moins 2 morts et 1 blessé du côté des FAMA, quand un véhicule des forces armées maliennes venant d'Al-Mustarat est tombé hier soir dans une embuscade à quelques kilomètres de Gao. C'est ce que nous a signalé de Bamako notre correspondant Kassim Traoré.
Le djihadiste Mokhtar Belmokhtar, dont la mort avait été annoncée plusieurs fois déjà, aurait été tué en Libye par une frappe aérienne française. Un responsable américain l'a indiqué hier, confirmant des informations parues dans le quotidien américain Wall Street Journal. Des détails avec Eric Manirakiza.
La frappe a eu lieu en novembre avec le soutien du renseignement américain. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a rencontré à Washington hier le chef du Pentagone, Ashton Carter. Monsieur Le Drian, qui n'a fait aucun commentaire, devait aussi rencontrer le général Michael Flynn, le futur conseiller pour la sécurité nationale du président élu Donald Trump. Selon le quotidien américain le Wall Street Journal, la frappe illustre l'étendue de la coopération militaire et de renseignement entre les États-Unis et la France, renforcée après les attentats de Paris en novembre 2015. Surnommé le Borgne, le djihadiste algérien a déjà été donné pour mort à plusieurs reprises, notamment en juin 2015 et en 2013. Mokhtar Belmokhtar, chef du groupe Al-Morabitoun, est l'un des djihadistes les plus recherchés de la région du Sahel, où il a mené de nombreuses attaques sanglantes. Les États-Unis avaient mis sa tête à prix pour 5 millions de dollars. La justice algérienne l'a condamné à mort à deux reprises pour assassinat de quatre Français en Mauritanie en décembre 2007, des enlèvements de deux Canadiens en 2008, de trois Espagnols et deux Italiens en 2009.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a fait face hier à une fronde sans précédent au sein de son parti, où trois ministres ont réclamé sa démission. Ils s'inquiètent, ont-ils dit, des effets électoraux potentiellement désastreux des affaires de corruption qui le visent. La direction de l'ANC au pouvoir a débattu à huis clos dans un hôtel de Pretoria de l'avenir de son leader et chef de l'État, dont le mandat doit s'achever en 2019. Le parti n'a pas communiqué sur l'issue de cette réunion au sommet, mais a annoncé lundi soir la tenue d'une conférence de presse mardi à 12h GMT.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, autorités, élus et experts américains ont mis hier au défi le président élu Donald Trump d'étayer ses récentes allégations de fraude massive lors du scrutin du 8 novembre qu'il a vu triompher d'Hillary Clinton. Ces accusations du milliardaire font suite à la contestation par une partie de la gauche américaine, accablée par la défaite, des résultats dans trois États déterminants, le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie.
L'auteur d'une attaque qui a fait 11 blessés lundi sur un campus de l'Université de l'Ohio dans le nord des États-Unis a été abattu par la police. Identifié par les autorités comme étant Abdulrazak Ali Artan, cet étudiant avait auparavant menacé les États-Unis sur Facebook. Jean-Roger Buon.
Les médias américains ont affirmé qu'Artan était d'origine somalienne, mais les autorités n'ont pas confirmé cette information. Il a blessé 11 personnes lundi matin, dont une grièvement, en percutant d'abord plusieurs passants en voiture, puis en brandissant un couteau. Il a été abattu par un policier de l'université rapidement intervenu. Artan aurait proféré des menaces contre les États-Unis sur Facebook quelques minutes avant l'agression. Interrogé lors d'une conférence de presse pour savoir s'il s'agissait d'un acte terroriste, la chef de la police de Columbus, Kim Jacobs, a répondu « Je pense que nous devons étudier cela, cette possibilité ». Le jeune homme, présenté comme étudiant en troisième année de logistique, disait être inquiet de la manière dont les autres pouvaient le percevoir, regrettant que les médias donnent selon lui une fausse image des musulmans. Cette attaque rappelle celle d'un autre Américain d'origine somalienne radicalisé qui avait blessé au couteau 10 personnes dans un centre commercial du Minnesota dans le nord à la mi-septembre avant d'être abattu par la police. L'attaque avait été revendiquée par le groupe État islamique. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a confirmé que la police fédérale, le FBI, aidait les forces de l'ordre locales dans cette enquête.
Jovenel Moïse, déclaré vainqueur de la présidentielle haïtienne dès le premier tour, selon les résultats préliminaires annoncés lundi soir par le Conseil électoral provisoire, a appelé les Haïtiens à s'unir pour relever le pays. Le candidat choisi par l'ex-chef de l'État, Michel Martelly, pour représenter son parti haïtien tête calée, a remporté l'élection présidentielle au premier tour avec 55,67% des voix, selon l'annonce faite lundi par les membres du Conseil électoral provisoire.
À la Havane, des centaines de milliers de Cubains se sont recueillis émus lundi sur la célèbre place de la Révolution face au portrait de Fidel Castro, dont l'urne funéraire a été dévoilée pour la première fois à la télévision. La journée marquait le coup d'envoi d'une semaine d'hommage rendu au commandanté, mort vendredi à 90 ans. Le point culminant de ces hommages sera la célébration dimanche à Santiago de Cuba des funérailles de l'ex-président cubain.
En Syrie, les rebelles ont perdu le tiers d'Alep Est, leur principal bastion, face aux forces du régime syrien. Sa chute totale infligerait la pire défaite aux différents groupes rebelles syriens depuis le début de la guerre en 2011. Damas espère rapidement reprendre Alep Est, que fuit la population, en froid à la faim et au froid. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit discuter aujourd'hui à New York de ce conflit.
Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Hassan Rouhani ont indiqué hier soir, lors d'une conversation téléphonique, leur soutien aux mesures prises par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en vue de limiter la production de l'or noir.
Enfin, l'ONU s'apprête à renforcer les sanctions contre la Corée du Nord à la suite de ses derniers essais nucléaires et balistiques. Selon des responsables américains et des diplomates, ces sanctions portent sur une limite stricte et contraignante aux ventes nord-coréennes de charbon à la Chine. Il s'agit là de la principale source de revenus externes de Pyongyang qui finance ses programmes nucléaires et balistiques grâce aux devises fortes ainsi acquises. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guériac.
La Mauritanie casse les prix des visas pour relancer le tourisme. Une baisse de 70 à 80%. Il faut dire que par crainte d'attaque djihadiste, il a été recommandé aux voyageurs français d'éviter le nord et le sud-est du pays. La sécurité règne totalement dans le pays, assurent pourtant les autorités mauritaniennes. Le Nigeria s'enfonce dans la crise et la politique économique du président est remise en question. Muhammadu Buhari n'est pas responsable de l'effondrement des prix du baril, mais il a mis 6 mois pour nommer son ministre des Finances. Le président a également tardé à dévaluer le Naira, malgré les conseils d'économistes. L'inflation s'est donc envolée à 18% en octobre. Et puis, le ministre français Manuel Valls est à Tunis pour participer à la conférence internationale des investisseurs qui débute demain. L'objectif est de relancer l'économie tunisienne en difficulté 6 ans après la révolution contre la dictature de Ben Ali.
À présent, la page sport avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Suite du tournoi de l'UEMA au Togo.
Eh oui, on commence par l'élimination du pays organisateur au stade Kégué. Le Togo, une nouvelle fois battu, cette fois par la Côte d'Ivoire, 1-0. Les éperviers, les joueurs locaux sont d'ores et déjà éliminés. D'autant que dans l'autre match, le Niger, qui affrontait le Mali, a fait 0-0.
Cannes féminine 2016, les demi-finales ce mardi.
Ouais, les championnes d'Afrique en titre, les Nigérianes qui doivent se défaire des Sud-Africaines tout à l'heure pour conserver leur titre, tandis que le Ghana ira défier le pays organisateur, le Cameroun.
Moussa Sissoko dans le viseur de son entraîneur en Angleterre.
L'absence samedi à Chelsea du milieu de Tottenham, Moussa Sissoko, était un choix tactique, assure dans la presse britannique son entraîneur Mauricio Pochettino, qui appelle sa recrue française à travailler dur pour montrer qu'elle mérite de jouer. Sissoko a été transféré cet été de Newcastle à Tottenham pour environ 35 millions d'euros. Depuis, il n'a commencé que 4 matchs de Premier League. Enfin, Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Sacramento-Washington 95-101, Philadelphia-Toronto 95-122, Oklahoma City-New York Knicks 112-103, Boston-Miami 112-104, Charlotte-Memphis 104-85, Utah-Minnesota 112-103.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Audience publique ce mardi au Congrès américain sur la République démocratique du Congo et plus précisément devant la Commission des droits de l'homme. Il sera question de démocratie pour les panélistes qui s'exprimeront devant les représentants du peuple américain, alors que la date du 19 décembre approche à Kinshasa et qu'aucun compromis n'a été trouvé entre toutes les composantes de la classe politique congolaise. Parmi ceux qui vont témoigner tout à l'heure au Congrès se trouve un professeur d'origine congolaise à Johns Hopkins University, et Nicolas Pinault a joint Mouemba Dizolele.
Le Congo est à la croisée des chemins. Cette situation requiert une démonstration d'un leadership impressionnant de la part de la majorité présidentielle, d'abord du président de la République, puisque le président de la République reste le garant de la constitution de la République démocratique du Congo. Il est temps qu'on puisse avoir un dialogue inclusif, c'est-à-dire un dialogue qui va aboutir justement au salut pour épargner le bain de sang à la République démocratique du Congo, au peuple congolais, qui par ailleurs ont déjà beaucoup souffert des violences et des conflits.
Il y a vraiment un risque d'embrasement ?
Il y a certainement un risque, on l'a vu au mois de septembre, on l'a vu au mois de janvier 2015 avec les manifs dites Téléma. On l'a vu au mois d'octobre avec les émeutes qui ont eu à Kinshasa surtout, qui ont tourné au vinaigre. Il y a eu des manifs ailleurs, mais qui n'ont pas abouti à la violence comme on a fait à Kinshasa. Mais cela n'est pas acquis, c'est-à-dire on peut éviter cette poudrière, comme vous dites. Je pense que cela va demander une démonstration énorme de leadership, d'agilité, mais aussi de patriotisme de part des différents acteurs de la société au Congo. Il s'agit ici du gouvernement, de la majorité au Parlement, il s'agit certainement du président de la République lui-même, puisque c'est lui le garant. En fait, il s'agit de sa décision. Et on ne peut pas parler d'autre chose. Principalement, c'est lui qui est au centre de ça. Il s'agit de l'opposition politique, mais aussi il s'agit de la société civile. Nous avons vu l'émergence du mouvement des jeunes, la Filimbi, Lucha et autres. On ne peut plus s'en passer. Donc l'heure est au dialogue, l'heure est à ce que chacun tire ses responsabilités en République démocratique du Congo.
Que pensez-vous de la communauté internationale qui demande évidemment le respect de la Constitution, mais dans le même temps qui salue l'accord politique qui prévoit notamment que les élections et l'élection présidentielle soient repoussées?
Écoutez, à Washington, la situation est plus nuancée que ça. Là, Washington ne parle pas d'une même voix. Il y a le Congrès où il y a différentes voix. Il y a l'ambassade américaine à Kinshasa qui est plus peut-être modérée dans ses déclarations. Mais il y a aussi le département d'État et l'envoyé spécial. Donc même là, je pense que on est d'accord que les États-Unis encouragent le pourparler, mais les États-Unis tiennent à ce que la Constitution soit respectée. La Constitution, le respect de la Constitution accorde au président deux mandats de 5 ans chacun. Au cas échéant, la Constitution prévoit que le transfert de pouvoir va du côté du président du Sénat, qui va gérer une transition pour 90 à 100 jours. Et dans le contexte actuel, je pense que c'est quand même difficile de croire qu'on pourrait avoir les élections dans 90 jours. La commission électorale a commencé la révision du fichier électoral, ce qui prendra du temps. Donc il y a beaucoup plus d'éléments qu'il faudra gérer, mais l'esprit de la Constitution, tel que les États-Unis l'encouragent, demande à ce que les stipulations soient respectées.
Le professeur Mouemba Dizolele de Johns Hopkins University.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
La communauté noire de Mauritanie a manifesté hier devant le siège des Nations Unies à New York. Le 28 novembre 1190, le 28 novembre 1990, à la base militaire d'Inal, 28 officiers noirs ont été pendus à l'occasion du 30e anniversaire de l'indépendance. Aucune excuse n'a jamais été présentée aux familles des victimes, dont certaines ont fait le déplacement hier à New York. Idriss Fall a joint sur place Bakary Tandia, défenseur des droits de l'homme.
Le 28 novembre 1990, dans le cadre du nettoyage ethnique en Mauritanie, le gouvernement de la Mauritanie a exécuté, a pendu 28 officiers noirs en détention à la célébration de l'indépendance nationale de la Mauritanie. Et depuis cette date, le 28 novembre est devenu une journée de deuil. Et ce qui rend la situation réellement grave, c'est que jusqu'à présent, nous ne savons même pas là où ces personnes ont été enterrées. Les responsables de ces crimes sont en train de circuler librement, bon, non seulement circuler librement, mais qui ont eu des promotions. Et en 2009, l'actuel président Aziz, qui s'était rendu à Kayedi pour organiser la prière des morts, nous considérons ça comme une insulte à la communauté noire. Aucun officier n'a été tué à Kayedi. Et comme la responsable de l'association des veuves, ici, Aïssata Nyang le dit, si le président était sincère, au lieu d'aller organiser cette prière à Kayedi, il devait aller organiser ça dans les lieux où ces personnes ont été exécutées. Nous avons notre sœur Kumba Gueye qui a fait le déplacement depuis Belgique parce que son frère a été exécuté parmi ses officiers. Aïssata Nyang, elle a perdu son mari. Les membres de la communauté sont venus de Philadelphia, de Chicago, de Cincinnati, etc., devant le siège des Nations Unies.
Et qu'est-ce qu'il est advenu des militants noirs de IRA qui étaient jugés à nouveau à Zouerat?
Les militants IRA qui ont été jugés, 10 ont été libérés, 3 sont encore en détention. Ces personnes ont été victimes de manipulations. Les charges qui ont été retenues contre eux, c'était des charges fabriquées et uniquement pour décapiter et pour empêcher cette organisation qui actuellement dérange le gouvernement mauritanien. Et par cette action, ils n'ont fait que renforcer les convictions de ceux qui sont engagés pour la lutte contre l'esclavage, la lutte contre l'impunité, la lutte pour la justice sociale pour tous les Mauritaniens.
Bakary Tandia, un Mauritanien défenseur des droits de l'homme à New York. En Guinée, environ 4000 accidents de la circulation sont enregistrés par an. La majorité des automobilistes sont obligés de prendre en charge les frais de réparation faute d'assurance. Le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Il n'est pas rare de voir des victimes d'accidents de la route dans les hôpitaux et autres centres de santé en Guinée. Ils sont plus de 1400 blessés graves enregistrés par an, mais des malades dont la majorité n'est pas assurée. Le centre Mère et Enfant traite parfois des malades avec ses propres moyens. Mamadou Debari, médecin.
On rencontre des difficultés parce que parmi ces patients, il y a beaucoup d'indigents qui ne peuvent pas faire face aux frais des prestations. Sommes obligés d'utiliser les maigres moyens de la structure pour traiter ces patients.
Les personnes non assurées devraient pourtant être prises en charge par un fonds de garantie automobile. Mais cette structure mise en place par l'État guinéen et dont la caisse est alimentée par les sociétés d'assurance est peu connue du grand public. Pour Ibrahima Keita, ex-secrétaire général de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, cette défiance s'explique.
Quand on parle par exemple de l'assurance vie, la Guinée est un pays de musulmans à 85%. Beaucoup sont réticents sociologiquement et culturellement à l'assurance vie. Et aussi le revenu fait que certains Guinéens ne s'intéressent pas à l'assurance. Quand vous prenez l'assurance automobile, par exemple, en Guinée, sur 100 véhicules qui circulent, vous avez à peine 25-30 véhicules qui sont assurés. Donc, si le taux de pénétration est faible, la masse des assurés est faible, cela fera que la trésorerie des sociétés d'assurance sera elle aussi faible.
L'assurance automobile est obligatoire en Guinée, mais elle peine à être effective.
Les lois de notre pays en matière d'assurance ne sont pas respectées. Il y a des lois qui oblige les usagers de la route à prendre l'assurance automobile. Il y a une loi aussi qui oblige l'assurance des marchandises à l'importation. Mais ça ne se fait pas sur le marché. Les opérateurs économiques n'assurent pas leurs marchandises à l'importation. Il y a aussi une loi qui oblige les entreprises minières, les entreprises de travaux publics et de construction, etc. Bref, toutes les grandes entreprises à souscrire des contrats d'assurance en Guinée. Parce que les risques sont localisés en Guinée.
La Guinée a un nouveau code d'assurance. C'est le texte de 1995 qui a été révisé et adopté par l'Assemblée nationale. Il devrait permettre au secteur des assurances de participer plus activement au développement du pays. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Siguiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Au Zimbabwe, l'introduction d'une nouvelle monnaie sous forme de billets d'obligation dans le but de résoudre le problème de manque de liquidité suscite de vives préoccupations dans les milieux d'affaires comme chez les gens ordinaires. L'opposition zimbabwéenne accuse le gouvernement du président Robert Mugabe de ne pas s'attaquer à la racine du mal qui mine l'économie nationale. Pour comprendre la nouvelle politique monétaire zimbabwéenne, Timothée Donangmai a joint en Afrique du Sud Ertsi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée au Cap.
Pour les activités financières, vous avez besoin d'acheter les marchandises et tout ça. Donc, ils achètent à l'étranger. C'est une fuite de capitaux, des devises étrangères qui vont vers l'Asie, l'Europe. Alors, pour maîtriser tout ça, il fallait bien introduire une nouvelle monnaie pour retenir le plus que possible les devises étrangères. Le dollar étant la devise principale de référence partout dans le monde, il faudrait bien le garder en réserve. Donc, c'est pour ça. Ils ont introduit le nouveau banc.
L'introduction de cette nouvelle monnaie cause des soucis aux hommes d'affaires et même aux Zimbabwéens ordinaires. Pourquoi?
Oui, parce qu'ils n'auront plus accès au dollar et à l'euro, au livre sterling. Donc, ça les limite un peu. La nouvelle monnaie en forme de banc qu'ils ont introduit ne peut s'utiliser qu'au Zimbabwe. Ce qui veut dire que s'il y a des transactions qui doivent être faites à l'étranger, il y aura moins en moins accès aux devises étrangères. Et déjà, on sait que quand le dollar était la monnaie principale de transaction, c'était même difficile à avoir. Il fallait que les gens se mettent sur les queues à la banque pour retirer. Et ils pouvaient retirer que $50 par jour, ce qui était déjà très difficile. Maintenant, avec une nouvelle monnaie, ça devient beaucoup plus difficile.
Est-ce que cela ne va pas relancer les activités du marché noir d'échange?
Définitivement, ça va le faire. C'était déjà en cours, le marché noir des devises, même dans les pays comme en Afrique du Sud, nous voyons ça. Mais déjà au Zimbabwe, la monnaie est devenant de plus en plus rare. Ça pousse les gens à trouver des moyens, même criminels, de pouvoir obtenir la monnaie. Parce qu'il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire avec la nouvelle monnaie qu'ils ont introduite. Et le Zimbabwe, il n'y a déjà rien de produit localement. Tout dépend des imports qu'ils font à partir de l'étranger. Ça devient difficile. Donc les gens vont essayer de leur mieux pour sécuriser ça.
On parle de risque d'hyperinflation.
Oui, parce qu'il n'y a rien qui a changé. De l'époque où il y avait le dollar zimbabwéen, qui a obtenu un taux d'inflation de 100 000%, un record mondial déjà. À maintenant, il n'y a rien qui a changé. L'économie est toujours au plus bas et la politique monétaire est quasiment la même. Il y aura l'inflation et ils vont retourner au dollar parce qu'il n'y a vraiment pas de vision ou de plan pour sortir le pays du chaos économique. Donc la même situation va se répéter.
Ertsi Kabeya, directeur général de la plateforme de Student Hub, une entreprise éducative basée au Cap.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.